Frères et sœurs bien-aimés, en étant réunis en cette église au soir de la Nativité, nous répondons chacun à une convocation de l'amour, cet amour de Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Depuis le péché des origines, Dieu avait annoncé qu'il enverrait le Sauveur. C'est ce que l'on appelle dans la tradition de l'Église le proto-évangile. Avant même que l'Évangile, qui est notre Seigneur, ne vienne sur terre, il était déjà annoncé, c'est à Ève qu'il est annoncé, « Dans ta descendance, une femme écrasera le serpent, c'est-à-dire le mal. » C'est l'annonce déjà de cette femme des derniers temps, la bienheureuse Vierge Marie, qui accepte au jour de son annonciation de se mettre à la suite de son Seigneur dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Elle accepte d'être la porte, l'aurore du salut. Avant cela, le bon Dieu avait envoyé, bien sûr, les patriarches pour guider le peuple choisi d'Israël qui nous figurait chacun dans l'histoire sainte. Et à ces glorieux patriarches fit suite les prophètes qui parlent au nom de Dieu, qui nous font connaître sa loi et nous rappellent les termes de son alliance. Le bon Dieu, dans ces temps anciens, se révèle comme un Dieu lent à la colère et plein d'amour, un Dieu de tendresse et de pitié. C'est tout ce que nous accueillons dans la crèche, au jour béni de l'incarnation du Fils de Dieu. Un Dieu qui est lent à la colère. Il n'est pas d'abord venu pour nous juger. Il renvoie ce jugement à la fin des temps. Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour le sauver. Le temps de son incarnation est donc le temps où Dieu vient à notre rencontre pour nous sauver de ce péché des origines. Mais quel est-il et comment se manifeste-t-il en nous? Saint Paul, le grand apôtre, peut nous dire, homme d'expérience et de foi, « Il y a ce bien que je voudrais faire. Vraiment, je veux faire le bien. Et pourtant, j'excelle à faire ce mal que je ne veux pas, toujours. » Il y a en nous, frères et sœurs, dans notre âme, la marque du péché, qui est un dérèglement intérieur. Notre raison est faite pour juger, elle est faite pour commander l'ensemble de nos actions, pour commander également notre corps. Notre raison est censée trouver l'aide de la volonté pour accomplir le bien. Nous avons été créés par amour, nous provenons chacun de la bonté de Dieu, et s'il est dans la nature de l'amour de se donner, et Dieu se donne à nous dans la création, parce que nous sommes ses créatures, il est également dans la nature du bien de se communiquer, de telle sorte que provenant de cette conjugaison de l'amour et du bien, la bonté de Dieu, nous sommes censés manifester, non seulement à travers l'amour de Dieu, qui nous permet d'être des hommes et des femmes debout à son image et à sa ressemblance, de manifester cet amour de Dieu tout autant à l'endroit du prochain. Et là, nous mesurons que nous ne sommes pas les meilleurs et qu'au lieu de cultiver en notre âme l'humilité que le Seigneur met en exergue en accueillant les premiers, les bergers, nous devons donc nous défaire de l'orgueil, de cette volonté de toute puissance et de domination. Si le bon Dieu qui s'incarne en cette heure était venu d'abord pour nous juger, d'abord pour nous condamner, il ne serait pas venu sous les traits d'un enfant. Sous les traits d'un enfant innocent qui dort paisiblement contre sa mère. Voilà le Dieu lent à la colère, plein d'amour, le Dieu de tendresse et de pitié. C'est bien parce qu'il a pitié de nous, pitié de ce règne du péché, qu'il est venu à la suite des patriarches et des prophètes en personne. C'est cette bonne nouvelle que les anges annoncent aux bergers. Les phrases que prononcent au nom du Dieu trois fois saint les anges aux bergers dans ce message céleste sont importantes. On leur dit que ça y est, le Christ est arrivé, c'est-à-dire, le terme est grec, c'est le Messie en hébreu, ça ne nous avance guère, c'est-à-dire l'envoyé même de Dieu. Mais cet envoyé aurait pu être un homme, une femme choisie parmi nous, membres du genre humain. On leur a précisé qu'il s'agissait bien du Christ, mais que c'était tout autant le Seigneur. L'amour que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous, un amour dont la bonté a déjà manifesté cette grande sollicitude dans sa création, cette bonté ne s'arrête pas à l'œuvre de création, elle va manifester la puissance même de Dieu dans sa rédemption. En accueillant l'enfant Dieu, nous prenons déjà une grande leçon d'humilité. Dieu, le Tout-Puissant, Créateur et du ciel et de la terre, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, a décidé par amour pour nous, pour chacun venir nous sauver du péché, et de ce qui conduit au péché, la conséquence de ce péché des origines, la mort, il a décidé de se faire homme tout en demeurant Dieu. Le mystère de notre Seigneur Jésus le Christ, celui sur lequel la foi chrétienne est fondée, c'est que le Christ n'est pas un prophète parmi tant d'autres. Ce n'est même pas un des grands hommes, ou tel que le monde voudrait nous les faire apparaître ou reconnaître. Non, il s'agit de Dieu lui-même, Dieu qui devient homme tout en demeurant Dieu. Le mystère du Christ, c'est cette double nature. Nous confessons qu'il est un homme, comme les apôtres qui cheminent à ses côtés, ce qu'il choisira pour être les témoins privilégiés de sa bonne nouvelle, mais il demeure Dieu caché dans cette humanité. De telle sorte qu'alors nous pouvons lire tout l'Évangile sur l'indication même des anges, puisqu'il s'agit du Christ, de l'envoyé de Dieu, et que Dieu a décidé de venir lui-même en la personne de son Fils. Voilà que Dieu, le Verbe de Dieu, nous parle, se donne à entendre, pour l'heure dans la crèche. Son abaissement est tel qu'il est silencieux. Lui qui est le Verbe, la parole qui a tout créé, va devoir apprendre à parler, sous l'exemple et de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Pourtant, il a, comme le reconnaîtra Saint Pierre, les paroles de la vie éternelle. Ce petit enfant qui, pour l'heure, dort, sommeille, dans la crèche de sa nativité, est pourtant le grand Dieu qui a créé tout l'univers. Par amour pour nous, les hommes, voilà qu'il vient à notre rencontre pour nous sauver. Et pour nous sauver de ce péché, qui défigure en nous l'image et la ressemblance de Dieu, pour nous sauver de la mort, pour nous délivrer donc du mal. La bienheureuse Vierge Marie, en acceptant cette mission de Dieu, en reconnaissant avec humilité que tout cela la dépasse, qu'elle est l'humble servante du Seigneur, eh bien voilà qu'elle permet de mettre au monde l'envoyé de Dieu qui vient nous sauver. Jadis, la chrétienté se réjouissait de cette fête, celle de savoir le Dieu lointain, de la hauteur du ciel, avoir su se faire si proche pour venir à notre rencontre, apprendre notre humanité, non seulement pour parler notre langage, mais aussi par ses gestes, par ses miracles qui sont autant de signes pour nous inviter chacun à la foi. Le Seigneur, pour nous sauver, ne se contente pas de venir parmi nous, voilà qu'il va être élevé, élevé de terre sur le bois de la croix. Et déjà dans l'Évangile, on nous annonce par un certain nombre de signes qu'ont donné les anges le sacrifice du Christ. La bienheureuse Vierge Marie, on nous dit qu'elle a enveloppé, emmailloté son enfant, comme il le sera dans le suaire de son tombeau. Il ne peut pas bouger emmailloté. Et elle le dépose, non pas dans un lit, il n'y a pas de place, dans la salle commune, avons-nous entendu, Elle le dépose dans ce qu'elle a trouvé à l'arrière de cette salle commune, dans cette grotte de la Nativité de Bethléem, la mangeoire. Et la mangeoire nous dit déjà que nous accueillons à Bethléem, dont le nom signifie la ville des pains, le pain vivant qui descend du ciel. « Je suis le pain vivant, nous dit le Seigneur dans l'Évangile, le pain vivant qui descend du ciel, celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. » Voilà déjà l'annonce de la Sainte Messe qui nous voit ici réunis, où ce Dieu d'amour et de vérité se donne à nous, caché, non plus caché dans son humanité comme au jour de son incarnation, caché dans cette hostie, dans ce vin consacré de sa présence. Il vient en nous et descend au plus profond de nos crèches intérieures, de nos crèches nauséabondes par le péché que nous y cultivons. Voilà que le bon Dieu n'a pas peur de descendre dans nos pauvretés et nos misères, car je vous l'ai dit, il est lent à la colère, il est plein d'amour. Ce Dieu est tendresse et donc il a pitié de nous. Et c'est donc par pitié pour nous, pécheurs, qu'il est venu s'offrir sur le bois de la croix. Pour toutes les fois où nous sommes coupables, où je suis coupable, où nous commettons des fautes et des péchés, des petits larcins aux petits mensonges, jusqu'aux actes bien plus graves, eh bien voilà que le bon Dieu a offert toute sa vie sur le bois de la croix, pour demander à Dieu son Père que nous, membres du genre humain, créés à sa ressemblance, à son image, eh bien nous puissions être tous réunis là-haut, dans la paix du ciel. C'est ce qu'ont chanté les anges. La gloire de Dieu, elle est au plus haut des cieux. Mais voilà que maintenant descend la paix sur la terre. La paix, frères et sœurs, que nous appelons de nos voeux, parfois dans nos familles divisées, marquées donc par le règne de la jalousie, de l'orgueil et du péché. Eh bien, cette paix, nous demandons au Seigneur de l'apporter dans nos familles, qu'il puisse parcourir en nos cœurs, en nos âmes, le chemin de miséricorde nécessaire pour pouvoir donner la parole bonne et constructive, pour pouvoir être, comme le Seigneur nous y invite, des artisans de paix. Voilà la paix qui s'incarne, non pas à la manière du monde, c'est-à-dire avec des chars, avec des armées célestes, et nous réentendrons tout ce grand discours sur la royauté du Christ et sur sa puissance, et le Seigneur dans sa passion de dire à Pilate qu'il pourrait envoyer des légions et des légions d'anges. Mais Dieu est bien éloigné du péché. Dieu est bon, Dieu nous aime et Dieu prône donc son chemin de justice, car rien ne manquera au moment du jugement. Dieu est juste et tout autant miséricordieux. Il peut aller même au-delà de sa justice. À ce qui nous est impossible, eh bien nous demandons au Seigneur que nous allons recevoir dans la Sainte Communion, à celui qui est le pain vivant qui descend du ciel en s'incarnant à Bethléem, comme il vient s'incarner dans nos âmes, et bien de nous aider à cultiver cette paix dans nos familles, mais aussi, nous le savons, à travers le monde. Et alors que nous sommes réunis ce soir, nous devons avoir une pensée émue pour tous ceux de notre Église qui, en des pays bien éloignés, viennent prier le Seigneur sous le poids des bombes, sous les risques d'attentats. Leur courage, leur foi, leur espérance, leur charité devraient nous servir d'exemple, nous qui sommes bien souvent à rougir du nom même de Dieu en notre terre de France. Alors nous demandons à ce que la paix vienne dans nos familles, à ce que la paix gagne notre France, celle que l'on appelait jadis la douce France, qu'elle puisse également gagner l'ensemble du monde, car le Seigneur nous dit bien qu'il est venu pour régner par sa justice, par sa miséricorde et par son amour. Nous sommes chacun les bergers qui venons ce soir avec nos pauvretés l'adorer. L'heure n'est pas encore des mages qui viennent offrir leurs cadeaux, leurs sciences, leurs actions de grâce. L'heure ce soir est d'accueillir ce Dieu si grand qui sait se faire si petit, ce Dieu inaccessible dans la hauteur du ciel qui se fait accessible dans son incarnation, mais tout autant dans notre prière, car le bon Dieu entend toujours nos prières. Alors nous allons prendre quelques instants pour chacun passer, penser en cette nuit de Noël, non seulement eh bien, à ce qu'advienne la paix en notre monde, mais aussi à penser chacun aux fidèles défunts de nos familles, à ceux qui ne seront pas, peut-être comme l'an dernier ou comme les années précédentes, autour de notre table. Nous demandons aussi au Seigneur Jésus, qui est la résurrection et la vie, de les faire entrer dans cette paix du ciel qui descend en nous lorsque nous l'accueillons. Ainsi soit-il.